Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu de matériel ce matin à mettre en place pour mieux expliquer le message que je vais vous apporter. Message de Pâques avec des sketchs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de sketch, mais je crois que le sketch, c'est encore mieux que la vidéo ou l'image, parce que ça permet de visualiser. Parfois des symboles qui sont un peu abstraits, un peu difficiles à comprendre, de manière très simple. Donc c'est un message de Pâques, mais aussi un message d'espérance pour notre Église ici, qui avons passé par des moments difficiles, mais où il y a une suite. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Comment aller plus loin dans cette nouvelle saison ?» Nous sommes dans des saisons. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre vie, quand vous êtes arrivé à un certain âge, quand on regarde en arrière, on voit qu'il y a certaines saisons. Ne serait-ce que des enfants qui sont petits, qui viennent grands, voilà, et après on se retrouve tout seul quand on est marié, voilà. Ce que j'appelle les saisons, c'est-à-dire des étapes, hein, où on remet un petit peu les choses. Voilà, là en ce moment, Michel est en train de vider un peu la maison de certaines choses, on les donne aux enfants qui ne les ont pas pris, etc. Voilà. Donc, c'est pareil dans une église, dans une communauté, il y a des saisons. Il y a des saisons, et je crois qu'on est dans une saison formidable. Formidable. Et je vais essayer de vous transmettre cette chose que je reçois. Je regarde juste le micro-baladeur, je ne le vois pas parce que j'en ai besoin. Si quelqu'un peut me l'amener, je ne sais pas où il est, le micro que Franz, tu avais. Voilà. Parce que je vais me déplacer, hein, comme je l'ai dit, j'ai là des. Un temps de partage avec. Voilà, vous le mettez en place pour que je puisse l'utiliser. Non, non, c'est bon. Il faut juste qu'il le mette en route. Ah, s'il y a des piles à changer. Voilà, on va prier pour que le Seigneur puisse conduire ce temps du message. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons ouvrir ce matin. Pour que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. C'est vrai que tu le fais au travers d'un messager qui est imparfait, que je suis, mais Seigneur, c'est ta parole et le contenu de ta parole qui est important. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu vas parler ce matin. Et Seigneur, que je sois un instrument entre tes mains, je te prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de matériel ce matin. On va commencer par lire deux passages, enfin des passages qui vont fonder un petit peu la prédication, qui sont les passages qui sont liés à la résurrection. Résurrection de Jésus. Et ce passage-là, on ne le lit pas souvent, mais à Pâques, mais je crois qu'il est important de bien comprendre que Jésus, il est fils de Dieu, fils de l'homme. Il est Dieu, il est homme. Et ça, on a un peu du mal à le comprendre. Et d'ailleurs, on ne comprendra jamais, c'est un mystère. Mais voilà ce qu'on lit dans Jean, chapitre 21, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils leur répondirent, Non. Il leur dit, Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, donc c'est Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, Apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Le deuxième passage qui est plus courant, qui est important aussi, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 12. C'est Paul qui parle. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Et si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Dis-le à ton voisin, ta voisine. Dis, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il semblerait que c'est la salutation de Pâques chez les orthodoxes. Je pense que c'est une bonne tradition de se le dire, parce que la résurrection de Jésus est attaquée aujourd'hui, cette théologie de la résurrection. Et déjà à l'époque de Jésus, vous voyez, Jésus s'adressait aux Sadducéens. Les Sadducéens, ce sont des descendants de Tsadok, le grand sacrificateur du temps de David. Cette lignée s'appelait les Sadducéens et ils gardaient le temple, c'est les gardiens du temple. Donc c'était au-dessus, c'est l'aristocratie des pharisiens, si vous voulez. C'est les pharisiens, les Sadducéens. Donc c'est eux qui étaient gardiens du temple. Et c'est eux qui ont crucifié Jésus. Mais eux, ils étaient dans la philosophie grecque. Ils faisaient des compromis avec les Romains, ils étaient en politique, ils faisaient la politique d'Israël. Et Jésus s'adresse à eux. Et ils ne croyaient pas à la résurrection, parce que les Grecs ne croient pas à la résurrection des morts. D'ailleurs, le christianisme, c'est la seule religion, la seule au monde, aujourd'hui et depuis toujours, qui croit à la résurrection des morts. Il y en a qui croient à la réincarnation, ce n'est pas une résurrection. Il y a toutes sortes de croyances dans le monde, mais si nous on perd ça, eh bien on n'est plus chrétien. Et ces paroles qu'on vient de lire le prouvent. Et le prouvent que si nous croyons pas à cela, nous sommes les plus malheureux des êtres humains, des hommes et des femmes de cette terre. Parce que seule la résurrection des morts nous permet d'espérer que nous vivrons éternellement. Est-ce que tu crois que tu vivras éternellement ? Lève la main. Est-ce que tu crois que ta vie est éternelle ? Vous savez, quand on croit des choses comme ça, ça veut dire qu'on s'occupe davantage, on est plus responsable de ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on sait que ça va nous suivre. La Bible dit que nos œuvres nous suivent. Et la résurrection des morts, c'est simplement le passage entre ce que nous avons vivant aujourd'hui, qui se termine avec la mort de notre corps, mais qui va suivre par la résurrection d'entre les morts. Amen. Ça, c'est vraiment la spécificité du christianisme. Le problème de beaucoup de nos difficultés de chrétiens, c'est que nous confondons l'agenda de Dieu, vous savez, la résurrection de Jésus, la venue de Jésus, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on ne sait pas trop, enfin, il y en a qui ne savent pas trop, même des chrétiens dans les églises, ils sont un peu perdus, il y en a qui suivent la politique, d'autres, etc. Bon, voilà. Et en fait, ce sont des agendas personnels que nous suivons, au lieu de suivre l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu, dans la parole, elle est claire. La Bible que nous avons tous, eh bien, elle nous montre qu'il y a des étapes qui suivent, des agendas, des différentes étapes qui se déroulent dans le temps. Et si nous ne croyons pas à ces étapes, nous croyons à nos étapes à nous. Je parlais tout à l'heure de saison. Et là, il y a un problème de compréhension uniforme de la parole de Dieu dans une même église. Et ça, ça mène des divisions. Je voudrais illustrer ça de cette manière-là. Voyez-vous, des agendas, c'est un peu comme ce qu'on appelle des jalons, des milestones en anglais, des bornes kilométriques en français, ou des milestones, c'est des bornes de miles, qui montrent l'avancement d'une histoire. Nous sommes dans une histoire, les amis. L'histoire a commencé il y a 4000 ans et elle va être éternelle parce que Dieu nous a fait éternels. Et donc nous sommes dans un agenda où il y a des étapes. Et ces étapes, il faut bien les comprendre, sinon c'est nous, on définit les étapes, ce qu'on appelle des agendas, et on est déçu parce que Dieu n'est pas dans ses agendas, forcément c'est les nôtres. Donc ce qu'il faut, c'est que nos agendas correspondent avec l'agenda de Dieu. Ok ? Donc il y a un agenda de Dieu hein, qui lui a des étapes, Dieu a des étapes, et je vais essayer de vous montrer les étapes ce matin, quels sont les agendas de Dieu, les étapes de Dieu. Le seul problème de l'agenda de Dieu, c'est que ça réclame de la patience. Et ça, on en a le moins. Ah Seigneur, tu as dit que tu allais guérir un tel, tu l'as pas guéri, etc. Bon. C'est notre cas, dans notre famille, voilà, on avait des espérances, etc., de certaines guérisons. Mais on a tous des agendas où « Ah, le Seigneur a dit ça, et pourquoi ça n'arrive pas ?» Et donc on est déçu, etc. Vous voyez, c'est-à-dire nos agendas rencontrent l'agenda de Dieu. Mais Dieu a un agenda. Quels sont ceux qui croient que Dieu a des agendas ? Voilà. Eh ben, ce qu'il faut, c'est se rapprocher de l'agenda de Dieu, des agendas de Dieu, des milestones. Par exemple, notre Église, je prends juste l'exemple parce que je vais aboutir sur une espérance de la saison que va vivre cette Église, qui est formidable, c'est qu'on a commencé les communautés chrétiennes des Yvelines en 1983. J'étais un des fondateurs, ça a commencé à Orgeval. Et l'idée, c'était d'être un fraisier, c'est-à-dire qu'on a des églises de maison qui fleurissent voilà, et qui se répandent sur toutes les Yvelines, comme en Corée, qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il a fait une autre promesse à cette église. Au même moment où on a commencé à venir dans cette église, dans ce lieu, le Seigneur a dit, cette église sera un phare. Je dis cette église. Je ne dis pas les individus. Ce qu'il faut, c'est, en tant qu'individu, adhérer à cette vision. hein, que le Seigneur a donné. Voyez. C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte de nos agendas pour aller vers l'agenda de Dieu, ce que j'ai dit. Le Seigneur a dit, cette église sera un phare. Alors, on peut discuter du phare, on peut le discuter, est-ce que c'est une vraie prophétie? En tout cas, ça a été confirmé plusieurs fois, donc je passe là-dessus. Et donc, ce sera un phare. Eh bien, je peux vous dire que 33 ans après, on est aujourd'hui 33 ans après cette déclaration, eh bien, nous allons entrer dans la vision du phare. Et je vais vous le montrer. Et ça, ça doit nous donner de l'espérance. Parce que c'est l'agenda de Dieu. Voyez-vous ? On a patienté, 33 ans, c'est quand même hein, une patience relativement longue pour une église. Une patienté, mais c'est Dieu qui remplit son agenda au bon moment. Jésus est venu au bon moment. Quand Dieu l'a décidé, il est venu. Et quand il décidera de l'envoyer en retour sur cette tête, ça sera le bon moment. C'est le moment de Dieu. Amen. L'agenda de Dieu est relatif à son royaume. C'est difficile à respecter. Pourquoi ? Pourquoi c'est difficile à respecter l'agenda de Dieu ? On parle tous de royaume, hein, aujourd'hui, toutes les églises parlent de royaume. Nous, on est dans une raison, on parle de royaume. Mais je peux vous dire que la notion de royaume, elle est vraiment élastique. Hein, et ce matin, j'ai essayé de vous dire ce que moi, je pense qu'est le royaume, selon une théologie qui a été approuvée par les évangéliques, la théologie de l'Inde. Alors, pourquoi c'est difficile à respecter l'agenda de Dieu ? Parce que nos agendas, à nous, eh bien, sont construits sur trois choses. Voyez. Parce qu'on construit des agendas, qu'ils soient explicites ou implicites. Un, c'est que c'est construit sur la culture. Dans notre culture, il y a des gens dans notre culture qui disent « Ah oui, le Seigneur revient ». Vous voyez, même les témoins de Jéhovah, ils ont plusieurs fois dit que Jésus allait revenir, etc. Donc les agendas voilà, sont liés à la culture, culture de notre famille d'église, culture de là où nous habitons, etc., culture personnelle, etc. Donc ces cultures sont toujours en changement, parce que ça vient de l'homme. La culture n'est pas de Dieu, vous êtes d'accord ? Ça vient de l'homme. Donc nous tenons compte de la culture. L'agenda que nous nous formons vient compte de la doctrine. La doctrine ne devrait pas changer, mais il y a tellement de doctrines d'églises différentes que là aussi, les agendas qu'on détruit, qui nous sont donnés par le mouvement d'église dans lequel nous sommes, eh bien, dans notre doctrine. Maintenant, chacun se fait sa doctrine sur Internet. Donc, en fait, ça ne fait que amplifier le phénomène de ces agendas qui se construisent au fur et à mesure du temps. Et, bien sûr, l'agenda du royaume de Dieu qui ne change jamais. Et j'aimerais vous présenter ce matin quel est l'agenda du royaume de Dieu, c'est-à-dire du règne de Dieu. Il y en a ce matin qui croient que Dieu règne. Que Dieu règne. Que Dieu est roi. Jésus est roi. Dieu est roi. Et que nous, nous servons un roi. Eh bien, ce roi, il règne. Mais comment est-ce qu'il règne? Et comment est-ce que ça se traduit dans notre vie quotidienne et dans notre vie d'église? Alors, je vais le faire avec des sketchs, un sketch, pour que vous puissiez bien comprendre qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ma façon de vous l'expliquer. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, il dit « Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit. » L'évangile est une puissance. Ce n'est pas une philosophie, l'apôtre Paul l'a dit devant l'Areopage, ce n'est pas une philosophie, c'est une puissance. Et il faut que ça redevienne une puissance dans nos vies, dans notre vie d'Église. La conception du royaume de Dieu, du règne de Dieu, est déterminante pour notre façon de nous comporter personnellement et dans l'Église. Et voilà ce que je propose, c'est de l'appuyer sur l'œuvre de John Wimber, qui est ici, hein, que Michel et moi, on a pu suivre. Et quand il prêchait, Il commençait pendant une heure à nous parler du royaume de Dieu, selon la théologie historico-biblique de Ladd, avec lequel il enseignait aux États-Unis, en Fuller Seminary. Et avec Michel, on dit, mais j'ai jamais entendu que quelqu'un qui a une puissance dans la façon de manifester l'œuvre du royaume, qu'il s'appuie d'abord sur l'enseignement de la parole. Et ça, ça m'a frappé et ça m'a donné confiance. Et du coup, j'ai bien sûr travaillé cette théologie du royaume de Ladd et que j'ai enseigné ici dans l'Église et que je vais recommencer, puisque maintenant je suis plus libre, je suis plus le pasteur opérationnel, et que j'ai plus de temps à consacrer à la parole. Alors, ici, je vais présenter maintenant le sketch qui va vous aider à mieux comprendre ce que je vais vous expliquer. Alors, on a le blanc.
Je pense que ça se passe de commentaires. Hein.
Le blanc, c'est le divin. Hein. C'est aussi bien Dieu que Jésus. Le jaune, hein, qui, on va dire, c'est l'homme. Hein. Donc, tout au long du sketch, les couleurs ne vont pas changer. C'est l'homme. Et puis, ça, bah, vous avez compris, hein. Qui sait, on va en parler. Et là, c'est ce symbole, souvent le violet, c'est quoi le symbole violet pour vous? Ah non. Ah ben, ceux qui sont catholiques, ils le savent, hein, parce que le violet, c'est dans toutes les religions, c'est l'autorité. En général, c'est l'autorité. Pour les cardinaux, etc., ils revêtent le violet. Voilà. Donc, bien sûr, on va le remettre à Dieu, hein, l'autorité. Donc, c'est l'histoire, le royaume, c'est celui qui règne. Le règne, c'est celui qui a le droit de régner. Il faut un droit. Et qu'est-ce que dit la parole au niveau de l'autorité? Il y a plusieurs passages qui en parlent. Où se trouve l'autorité? Toute autorité, vous savez, l'autorité laïque, l'autorité de l'instituteur, l'autorité des parents, l'autorité, il y a tout un tas d'autorités. L'autorité du président de la République, l'autorité, etc., l'autorité de... Voilà. Mais quand on parle de l'autorité, où est-ce que ça commence, l'autorité? Oui, c'est l'auteur. Mais avec Dieu. Paul le dit... Il dit « Toute autorité », c'est marqué textuellement. Vous voyez, il faut bien connaître sa Bible. Hein. « Toute autorité vient de... » On le redit ?« Toute autorité vient de Dieu. » Vous avez appris quelque chose ce matin. Ah oui, « Toute autorité vient de Dieu. » Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, quand on parle d'autorité, il faut toujours savoir où ça remonte. Vous savez que j'écoute un prédicateur que j'aime bien, Jean-Paul Jackson, et il dit, quand il y a une sœur qui vient, ou un frère, hein, qui vient le voir, il commence à critiquer le pasteur, il dit, il commence à dire, oui. Il dit à la sœur, critique le pasteur, mais est-ce que tu sais que si Dieu a quelque chose contre ce pasteur, il peut lui dire, il n'a pas besoin de toi. Si tu crois que Dieu l'a mis en autorité, et que c'est lui l'autorité, il peut le reprendre. Non seulement il peut le reprendre directement, mais il peut même l'amener au ciel pour lui dire « ça suffit comme ça hein ». Et que toi, ton agenda, c'est peut-être plus important pour toi de critiquer ton pasteur que pour Dieu. Vous voyez, c'est là qu'on a l'agenda personnel, qui souvent est plus important. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que nous devons être davantage des gens de prière, et d'intercession, et de faire confiance que Dieu est en autorité. Mais on ne le croit pas. On ne le croit pas vraiment. Parce qu'il y a nos agendas qui sont construits sur la culture, sur la... je ne me rappelle déjà plus. La doctrine, voilà. On a des doctrines. Et sur la parole. Alors, revenons-en à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, eh bien, il y avait avant la création, il y avait le malin. Avant que la terre soit créée, là c'est la création, il y avait le malin. Le malin, Satan, hein, l'ennemi, il n'avait pas cette couleur-là. Très joli, là. Il n'avait pas cette couleur-là, au début. C'était quoi sa couleur ? Pardon ? Blanc, or, tout ce que vous voulez, c'est de la gloire, quoi. Il était revêtu de gloire. Satan, chérubin. Il était porteur de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé avant la création de l'homme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est rebellé. Il s'est rebellé contre Dieu. D'accord ? Il s'est rebellé contre Dieu. Et ce qu'il voulait, c'est l'autorité. C'est l'autorité qu'il voulait. Mais vous rendez compte la folie d'un être créé. C'est un ange, ok ? Un ange créé. Eh bien, cette créature voulait l'autorité du créateur. Voyez-vous ? C'est ça qui s'est passé. Et voyez-vous, et je pense que pourquoi il voulait ça ? Et parce qu'il pensait que l'humilité de Dieu, parce que Dieu est humble, il n'a pas besoin, parce que Dieu est Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a une autorité, il se la pète pas. Vous voyez ? Parce qu'il a l'autorité, il sait qu'il l'a reçue. Et donc les gens qui ont vraiment l'autorité, ce sont des gens humbles. Dieu était humble, il pensait que l'humilité de Dieu, la simplicité de Dieu, la gentillesse de Dieu, eh bien, lui permettait d'avoir ça, voyez. Et aujourd'hui, c'est pareil avec les chrétiens. Les chrétiens qui sont humbles, les chrétiens qui sont soumis à Dieu, etc., ben on pense que c'est de la faiblesse. Et on veut abuser d'eux. Voyez-vous ? Mais sachez que c'est une force, parce que ces chrétiens-là, Dieu les garde et les protège, et c'est l'agenda de Dieu qui se met en place. Donc, il n'y a pas besoin de s'en faire. Mais c'est une réalité. Donc, il voulait cette autorité de Dieu. Et donc, il s'est rebellé contre Dieu, mais il a été repoussé dans les ténèbres parce que, en fait, on ne peut pas prendre l'autorité de Dieu. Eh bien, il s'est éloigné de la lumière, de la source de vie de Dieu, de la lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il est parti en décadence. Et tous les jours qui passent, il est de plus en plus décadent. Il est de plus en plus corrompu. Il est de plus en plus, il tombe dans la pourriture. Voyez-vous ? Et quand on laisse des choses spirituelles rentrer dans nos vies, à nous-mêmes, on est touché par cette pourriture. Satan, eh bien, il s'est éloigné de la source parce que Dieu l'a chassé de sa présence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu, il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image. L'homme et la femme. Il a créé l'homme, ensuite après, il a endormi l'homme, il a tiré la femme de l'homme, son vis-à-vis, et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il voulait que ce jardin, eh bien, il utilise ce jardin pour transformer toute la terre comme ce jardin. Et donc, il lui a donné l'autorité. Voilà. Dieu a donné l'autorité pour le faire. Genèse 1, 22. Dieu dit, après toute la création, il dit, soyez féconds et remplissez la terre. Ça, c'est l'autorité. Soyez féconds, c'est-à-dire soyez fertiles. Produisez quelque chose, voyez-vous. La fertilité, c'est la vie. Comme en ce moment, je suis en train de semer des plantes et tout ça. Eh bien, là, je vois rien, mais dans quelques semaines, eh bien, ça va produire la vie. Donc, il a dit, soyez féconds, donc soyez fertiles, et multipliez-vous. Ça, c'est Genèse 1, 22. Et il lui a donné l'autorité pour le faire. Et cette autorité lui permet de transformer les choses. Vous savez, à l'époque, dans le jardin d'Éden, Adam, il pouvait dire « Montagne, déplace-toi ». Il se déplaçait. Il disait Cet arbre-là, eh bien, il va produire du fruit. Il le disait et ça produisait. Il pouvait tout transformer avec l'autorité. Parce que c'est l'autorité du Créateur, de la création. C'est une autorité qui pouvait transformer les choses. Et c'est comme ça que Dieu a prévu que l'homme qu'il a créé à son image et qui lui a donné la terre, eh bien, il soit responsable. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de se rendre compte que nous sommes responsables de cette planète. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus cette autorité-là parce qu'elle nous a été enlevée, on va le voir. Donc Dieu a donné cette autorité-là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Satan ? Quelle est sa nature de Satan ? Quelle est la nature de Satan ? Menteur ? Séducteur ? Voleur ? Et en plus, il est jaloux. La jalousie, c'est pas très bon. Hein, ok ? C'est quoi sa jalousie ? Cette autorité-là, il la veut. Les jaloux, ils veulent tout ce qu'ont les autres. C'est ça la jalousie. Voyez-vous ? C'est pas très bon d'être jaloux. Parce qu'en fait, on est toujours malheureux parce qu'on a toujours quelque chose que les autres ont que nous, on n'a pas. Ça, c'est la nature de Satan. Et Satan était jaloux de l'autorité que Dieu a donné à l'homme et à la femme. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que Satan, il a commencé à s'approcher de l'homme. D'accord ? Il s'est approché de l'homme. Et ce qu'il voulait, c'est l'autorité. D'accord ? C'est tout. Il s'en fiche de la création, il s'en fiche de ce que Dieu fait, il s'en fiche de tout ça. Lui, c'est lui. Moi. Moi, j'ai besoin de cette autorité. Moi, je veux avoir de l'autorité. On s'en fiche de ce qu'il va faire. Il va détruire, mais il veut l'autorité. Donc, il va venir voir Ève. Dire, Ève, est-ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas que vous mangiez les fruits des arbres dans le jardin ? Ève a dit, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, vous pouvez manger tous les fruits, mais pas de celui qui est là-bas au milieu. Ah bon ? Tu crois que c'est vrai ça ? C'est vrai, il a dit ça ? Oui, il a dit ça. Mais non, Ève. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, il voulait juste dire que si vous mangez ce fruit-là, vous saurez tout comme Dieu sait. Vous aurez toute la connaissance et vous serez Dieu. Et ça, il veut pas ça. Ah, mais je savais pas. Ah ben, je vais goûter. Et donc, elle prend le fruit de l'arbre et mange. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle en donne à son mari qui est à côté. Il n'est pas de l'autre bout du jardin, il est à côté. Mais tiens. Et lui, il en mange aussi. Ah ben voyons. Alors que, qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Il a donné sa parole. Et donc, on fait confiance à la parole que Satan lui a donnée. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il reçoit l'autorité. Qui est-ce qui a donné l'autorité ? Adam et Ève. Très bien, ma sœur. C'est pas Dieu. Voilà. Il est un petit peu lourd. Et du coup, Dieu, l'homme, est sous l'autorité de Satan. L'homme est sous l'autorité de Satan. Et la Bible dit que ça, c'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Le prince de la terre. Il est devenu prince de la terre. Puisque normalement, c'est l'homme qui devait être celui qui dirige, celui qui est le prince. Ah ben, il l'a donné, c'est lui le prince de ce monde. Et Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Du coup, on arrive à Jésus. Jésus qui est envoyé par Dieu sur la terre. Et Jésus, je passe quelques détails parce que j'ai pas le temps, je vois que l'heure tourne trop vite. Et Jésus arrive, il jeûne 40 jours et 40 nuits, et il est envoyé par le Saint-Esprit dans le désert où il rencontre Satan, qui a l'autorité, le prince de ce monde. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va y avoir trois tentations. Trois tentations dans Luc chapitre 4, quand vous le lisez. Il y a la tentation qui est que il y a l'orgueil de la vie. Satan va lui dire, eh bien, si tu es le fils de Dieu, tu te jettes de ce temple et Dieu va t'envoyer des anges qui vont te récupérer. Tu vas pas te faire de mal. Tu ne vas pas tomber mort. Tu vas vivre. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit. À chaque fois, il a opposé la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il a passé à la deuxième tentation. La deuxième tentation, donc ça c'est l'orgueil de la vie. La deuxième, c'est la convoitise de la chair. Il a dit, mais tu vois, tu as jeûné pendant 40 jours, tu as faim. Mais regarde ces pierres-là. Mais tu dis un mot et ces pierres se deviennent du pain. Et Jésus a répondu en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, Jésus, à chaque fois, il renvoie une question avec la parole de Dieu, ce que Adam n'a pas fait. La troisième tentation, ça a été la convoitise des yeux. Satan a dit, mais regarde là, tous les royaumes qui sont devant moi. Il est monté sur une grande montagne, il a montré tous les royaumes. Il dit, tu vois tous ces royaumes-là, eh bien, ils seront à toi. Ils seront à toi, parce que moi, j'ai l'autorité sur ces royaumes. On me l'a donné. Donc tous ces royaumes-là, je te les donne. Je te le donne. Il suffit simplement que tu m'adores, que tu te mettes à mes pieds, que tu m'adores. Et Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Il a dit, toi, tu veux que je t'adore alors que toi tu es une créature et moi je suis Dieu. Toi qui as cette prétention absolument folle de croire que je dois t'adorer alors que c'est toi qui dois m'adorer. C'est pas moi, c'est toi une créature. Voyez-vous, mais Satan il n'a pas de limite dans sa prétention et son désir de corrompre. Et la Bible dit que Jésus a résisté et Satan s'est éloigné. Sauf qu'il a essayé de le tuer à deux reprises dans des tempêtes, rappelez-vous. Il est parti sur la mer de Galilée, des tempêtes qui se sont levées, et Jésus, il a arrêté la tempête. Parce qu'il y avait derrière la puissance de Satan pour la déclencher. Et deuxième fois, c'est pareil, il a arrêté la tempête, il a marché sur l'eau, et il n'a pas sombré. Jésus, on n'a pas pu lui enlever la vie, mais c'est lui qui a décidé de la donner. C'est lui qui est allé voir le Sanhédrin. C'est lui qui s'est laissé prendre sa vie. On ne la prend pas, il la donne. Il la donne parce qu'il avait une mission à accomplir, une mission de justice. Et Jésus, est mort sur la croix. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la résurrection de la mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix et il a donné sa vie. Et le troisième jour, alors il est dit dans le passage de Jean, il est dit qu'il est descendu aux enfers. Il est descendu aux enfers. Il a libéré, il a ouvert le séjour des morts. Donc en fait, il a reçu l'autorité de Dieu sur le séjour des morts. Il a récupéré l'autorité au moment de la résurrection parce qu'il est ressuscité, il a reçu l'autorité de Dieu et il a libéré la clé du séjour des morts. Il a reçu la clé. Quand Jésus a construit, quand Jésus a établi l'Église, dans Matthieu 16, il a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés. » Ça veut dire qu'il ne les avait pas encore. « Quand je les aurai, je te donnerai les clés du royaume. » Et là, à la résurrection, il a reçu les clés. Il est descendu au séjour des morts. Il a ouvert la porte du séjour des morts. Et les morts ont ressuscité. Et il est dit que le jour de Pâques, il y avait des résurrections partout, dans toute la ville. Il y a même Ézéchiel qui a ressuscité. Vous imaginez ? Quelqu'un qui est mort il y a 800 ans et qui parle avec une femme en Israël. La femme dit « Ah, qu'est-ce qui est passé ? Comment ?» Paf, d'un seul coup, il est parti. Parce que, tchou, ils sont partis. Ils les ont vus, mais ils sont partis au ciel. Donc, vous voyez, ce jour-là, il y a eu des résurrections des morts. Il y a eu les tombes qui se sont ouvertes et les morts ont ressuscité. Parce que Jésus a reçu la clé. Il a dit à Pierre, je te donne ces clés-là. Il les a données après, quand il est ressuscité. Donc, Jésus, il a vaincu Satan, qui a été vaincu, et il a vaincu la mort. C'est le premier qui a vaincu la mort. C'est le prémisse, c'est le début de la victoire que nous, on a en Christ. Il a établi la justice. La justice de Dieu, il est dit qu'il est devenu pour nous justice. Parce qu'il fallait que justice soit faite par rapport à la parole que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Et lui, il a obéi en toutes choses, il a refusé de se laisser corrompre. Et il délie les captifs. Alors, quand il est revenu, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il a rencontré ses disciples après la résurrection. Il a dit, il y en a 500 qui l'ont vu ressusciter, qui l'ont vu avant qu'il monte dans le ciel à l'ascension. Et il leur a dit la même chose que ce que Dieu a dit à l'homme dans Genèse 1, 22. Il leur a donné l'autorité en disant « Soyez féconds et multipliez ». Il a dit la même chose. C'est-à-dire qu'il a remis au point de zéro, au départ, l'objectif de Dieu pour l'homme. Et il a dit sous la forme suivante, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, il a dit « Allez par tout le monde, prêchez l'évangile, prêchez la bonne nouvelle et faites les œuvres que moi-même j'ai faites. Hein, » le passage biblique, je vais vous le lire exactement parce que je ne l'ai plus en tête. Hein. Voilà, dans Matthieu 28, il dit, eh bien, je vous donne l'autorité pour faire des disciples. C'est-à-dire la semence que moi je vous ai apportée avec les disciples que vous êtes, eh bien, vous, à votre tour, vous faites des disciples. Donc, l'autorité, on l'a pour faire des disciples et faire les œuvres du royaume, c'est-à-dire guérir les malades, ressusciter les morts et faire l'œuvre de l'évangile du royaume. Nous sommes des ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens 5, 28, il dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ce sont les justes qui reçoivent l'autorité. Ce n'est pas les hommes, tout confondus, les païens. C'est le chrétien qui reçoit l'autorité spirituelle, parce qu'il croit en Christ, et qu'en Christ, il a reçu cette autorité. Et dans Matthieu 28, il dit « Allez, faites des disciples dans toutes les nations. » Faites des disciples dans toutes les nations. C'est ça l'autorité que nous avons. C'est-à-dire que Jésus, qui a transformé les choses de cette décadence de la terre dans laquelle nous sommes, eh bien, il l'a transformé en prémisse. C'est le début, un peu comme le printemps qui annonce la suite. Eh bien, vous faites de même. Et de génération en génération, jusqu'à mon retour, eh bien, faites des disciples dans toutes les nations et enseignez-leur. Enseignez-leur à pratiquer les œuvres. Le premier impératif, c'est aller, c'est la mission de faire, et à observer les paroles et les actes de Jésus. Soyez féconds et multipliez, c'est l'équivalent de Genèse 1, 22 que nous avons vu tout à l'heure. Le problème, c'est que le chrétien reçoit l'autorité de Dieu en Christ. En Christ, reçoit l'autorité. L'autorité pour guérir, pour faire les œuvres du royaume. Le problème, c'est qu'il y a Satan qui est toujours là. Il n'est pas encore enchaîné. Okay ? Et il vient voir le chrétien et dire « Ah, tu penses avoir l'autorité. Tu penses avoir l'autorité. Mais est-ce que tu es sûr que tu as l'autorité ? Est-ce que tu es sûr que ce malade-là qui est là, eh bien, il va guérir si tu pries ? Ah non. Ah bah, et il le fait douter. Et du coup, s'il doute, eh bien, il lui redonne l'autorité. Hein ? Ben oui. Le doute, l'incrédulité. Il l'a, mais il le donne. Et celui qui ne doute pas, eh bien, il a l'autorité. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il parle au nom de Jésus, la parole de Dieu, et lui, il fuit. Résister à l'ennemi. Et il fuira loin de vous. Bon, il va attendre un moment favorable pour revenir. Mais notre tâche, c'est de croire et de résister à la tentation. Amen. C'est pour ça qu'on est appelé des chrétiens, des petits Christ. On est appelé à faire de même que Christ. Et Jésus, en fait, quand il est devant cet état de choses, il loue le centenier. Le centenier romain qui vient, c'est un païen qui a vu Jésus faire des miracles, tout ça. Et lui, il vient voir Jésus et il dit, non pas son fils, son serviteur est malade. Il a soin de son serviteur. Et il dit, Jésus, mon serviteur est malade. Eh bien, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus ne se déplace pas. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Est-ce que le serviteur est guéri ? Vous connaissez l'histoire, quand même. Je ne vais pas vous faire l'insulte de ne pas la connaître. Bon, le serviteur est guéri ? Et comment est-ce qu'il est guéri ? Est-ce qu'il s'est déplacé, Jésus ? Bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut se poser des questions, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, je vous fais réfléchir sur le royaume, là, hein, sur le règne. C'est ça mon objectif ce matin. Comment fonctionne le royaume ? Oui, la foi, mais comment fonctionne la foi ? Moi, j'aime bien comprendre les choses. Oui ? Absolument. Et Jésus le dit, d'ailleurs. Il dit, il a loué ce centenier en disant, il n'a jamais vu en Israël autant de foi. Et sa foi, c'était quoi, sa foi ? Ah ben, il a simplement déduit de ce qu'il connaissait dans l'armée. Qu'est-ce qui se passe dans l'armée ? D'ailleurs, il le dit. Relisez l'histoire. Tout est écrit. Hein. Moi, je n'invente rien sur l'interprétation. Ben oui, obéir à l'autorité. Lui, je ne sais pas quel grade il était. Centurion, bon, je ne connais pas les centhommes. Voilà. Mais il avait au-dessus un chef et en dessous, il avait des sous-officiers, etc. Et comment marche dans l'armée ? L'armée, ça commence par le haut, le général. Et ensuite, après, ça descend. Et si les ordres ne sont pas respectés, ben, l'armée ne peut pas gagner. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que l'armée est ordonnée d'une certaine manière avec une autorité. Et si vous ne respectez pas l'autorité, ben, vous ne faites pas partie de l'armée, vous êtes déserteur, vous êtes tout ce que vous voulez, etc. Et lui, il a compris ça. Et il vivait là-dedans. Et il a compris que Jésus était dans la même structure d'autorité spirituelle. Le problème, c'est que la culture ne nous enseigne pas ça, et même l'Église ne nous enseigne pas ça. C'est ça qui est dramatique. Même l'Église ne nous enseigne pas ça, la structure d'autorité. C'est quoi la structure d'autorité ? Eh bien, parce que quand il s'adresse à Jésus, il sait que Jésus a derrière lui une structure d'autorité. il y a des archanges, il y a des anges, etc. Et que quand il dit quelque chose, eh bien, les anges se mettent en route, etc. Ils peuvent guérir, ils peuvent déplacer des montagnes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, etc. C'est une structure invisible, mais réelle. Et ça, on ne le comprend pas et on ne l'accepte pas. Et du coup, on n'a pas l'autorité. Moi-même, qui suis scientifique, j'ai dû comprendre que cette chaise-là, parce qu'il y a des atomes dedans. Bon, c'était réalité. Et là, c'est une réalité spirituelle. L'existence derrière d'une structure d'autorité, où ça monte jusqu'à Dieu, où quand un ordre est donné par quelqu'un qui a l'autorité, eh bien, l'ordre est accompli. Si un chrétien, et nous on l'a vu avec Michel, avec John Wimber, dit « Sois guéri, ma sœur », ben, la sœur est guérie. À condition que ce soit la foi. C'est pas la présomption, c'est la foi. La foi de croire que Dieu va déclencher, et c'est pour ça qu'il faut l'agenda de Dieu pour le faire. Mais quand on le fait, ça arrive, mes amis, ça arrive. On est dans une société séculière, et en France particulier, où l'Église ne croit plus dans les miracles, et ne croit plus parce qu'on ne les voit pas. Mais c'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas, mes amis. La structure d'autorité, elle a été donnée à la résurrection de Jésus. Et quand il a dit, eh bien, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et accomplissez les œuvres que j'ai faites. Amen. La foi du centurion nous parle. C'est de voir la structure invisible, la réalité qui est derrière. Mes amis, il y a une structure d'autorité. Les anges, il y en a déjà qui ont vu des anges ici ? On peut les voir, mais ils existent. Et si on n'y croit pas, eh ben, on ne peut pas les faire déclencher parce qu'on n'utilise pas l'autorité. Ce n'est pas une autorité politique qui nous donne. Il y a certains chrétiens qui pensent que c'est la politique. Mais non, c'est spirituel, l'autorité spirituelle, l'autorité en Christ. Mais si on utilise cette autorité, eh bien, John Wimber, qui est là, hein, que nous on a vu, eh bien, lui, il croyait et on voyait. Les miracles. Il avait tellement de miracles qu'en Afrique, il dit, pour tous les morts qui priaient, ils ressuscitaient, ils demandaient au Seigneur le discernement pour ne pas prier pour n'importe qui, parce que tout le monde ressuscitait. Voyez-vous, quand on croit, c'est un homme qui a cru, qui croyait que ces réalités sont des réalités qui existent, eh bien, quand vous donnez un ordre, ils sont exécutés. Et ils font qu'on revienne, mes amis, à cette structure d'autorité. On croit à cela. John Wimber, il a utilisé la puissance de Dieu pour faire des miracles, mais ce n'est pas lui qui le faisait, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut être en accord avec le Saint-Esprit. Il faut que notre agenda, ce ne soit pas notre agenda à nous. Il faut que nous sachions que le Père a décidé. Et Jésus faisait ce qu'il voyait faire au Père. Et cette structure d'autorité fonctionnait avec Jésus à chaque fois. Il ne guérissait pas tout le monde. Il guérissait ceux qu'il voyait faire au Père. Et quand le Père, dans la nuit, il disait « Tu pries pour un tel ou un tel », les gens étaient guéris. Voyez, il faut une obéissance à Dieu. Il faut, comme Jésus, une obéissance à Dieu qui est parfaite. Mais la foi est un risque. Voyez, c'est un risque. C'est un risque. Si je prends cette autorité et je dis à cette sœur « Tu es guéri ». Et si ça ne se passe pas, ben, si ça vient de moi, je vais dire « Ah, je suis un mauvais chrétien, je suis un... » Non. Wimber disait « À vous, c'est de prier. À Dieu, c'est de guérir. » Parce que la guérison vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Mais notre foi, c'est de la mettre en action et de croire que Dieu est encore aujourd'hui capable de guérir. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui croient que Dieu est capable de guérir ? Amen. Eh bien, mettez votre foi en action. Ça, c'est le royaume. Mettez votre foi en action. Et... on n'a pas besoin d'attendre des réveils. Le réveil, il vient si nous, on y croit. Si nous, on met notre foi en action. Amen. J'ai un livre là que j'ai passé à Charles, mais vous pouvez en avoir d'autres. Hein. Allez guérissez. Et John Wimber raconte sa vie, son histoire. Et nous, on l'a vécu. On l'a vécu. Et on veut le revivre, les amis. On veut le revivre. On veut voir des signes, des miracles, des guérisons se produire. Amen. Et si nous, on rentre dans la structure d'autorité, celle de Dieu, pas celle des hommes, pas les agendas des hommes, eh bien, nous allons à nouveau le voir apparaître. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être obéissant. Parce que le Saint-Esprit, il ne va pas nous obéir à nous. Il va obéir à Dieu. quand il voit qu'on est dans le même timing que Dieu, et quand on dit « Sois guéri », et la guérison apparaît. Amen. Ça, c'est la nouvelle saison, les amis, dans laquelle on rentre. Il faut rester en proximité avec Dieu. Vous voyez, on peut l'imaginer comme ça. Ça, c'est nous. OK ? Ça, c'est nous. Et il y a Dieu qui est au-dessus. Plus on est en proximité avec Dieu, l'ennemi ne peut rien faire. Mais si on s'éloigne de Dieu, le problème, c'est qu'on s'éloigne trop de Dieu. Nous, on s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, eh bien, l'ennemi, il rentre. L'ennemi, il rentre. Vous voyez, si moi je m'éloigne de Dieu, si j'ai plus la foi, tout ça, ben l'ennemi y rentre. Donc c'est l'ennemi qui reprend l'autorité, c'est pas moi. Voyez-vous, ça ne marche que si on reste en proximité avec Dieu. Et le phare qui va faire rentrer les bateaux, hein, qui sont en péril à l'extérieur dans la nuit, eh bien ce phare, eh bien Dieu va le faire ici. C'est ce qu'il a prévu en tout cas. S'y trouvent des hommes et des femmes qui croient en sa puissance. Et c'est grâce à l'évangile de puissance. L'évangile n'est pas un évangile de philosophie, de parole, comme l'a dit l'apôtre Paul, c'est un évangile de puissance. Amen. Moi, je crois dans l'évangile de puissance, parce que Dieu, il est de la puissance. Ce n'est pas juste la parole pour la parole. Dieu a créé l'univers. Il a créé toutes choses. Et il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, je vous propose cette devise pour la nouvelle saison. Justice, autorité et pouvoir. La justice, c'est que nous devons toujours nous appuyer sur la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est la croix. C'est la croix où la justice de Dieu a été manifestée. Et ensuite, l'autorité, allez, faites de toutes les nations des. C'est soyez féconds. Prenez des gens à côté de vous, faites des disciples. Et c'est ce que Jean-François Gott nous a dit il y a quelques mois. Faites des disciples. Regardez là où il y a des hommes et des femmes qui veulent entendre parler de Jésus et parlez-leur. Et là, vous êtes dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Et ensuite, après, faites les œuvres de Jésus. Faites les mêmes œuvres. Allez voir les malheureux, guérissez-les et apportez-leur la puissance de la résurrection, le pouvoir. Et alors nous serons missionnels et apostoliques, c'est-à-dire on envoie d'autres disciples, des disciples après les disciples. Mes amis, je termine là-dessus, croyons. Croyons dans la structure invisible de l'autorité que Dieu a mis en place et qu'il peut mettre en action à n'importe quel moment. D'ailleurs, il le mettra en action quand Jésus va revenir. Toute la description de Jésus quand il va venir avec les anges, les archanges et tout ça, ça va être extraordinaire. Mais déjà aujourd'hui, il existe cette structure. Et nous devons y croire. Intercédons, combattons, résistons à l'ennemi et proclamons le royaume tout en guérissant les malades et en faisant les œuvres du royaume. Amen. Ça, c'est notre programme. C'est le programme de toute église. Ça devrait être le programme de toute église. Mais l'ennemi, il nous endort. Il veut des églises, il veut faire des clubs, il veut faire tout un tas de choses. Mais on n'a pas besoin que ça existe dans le monde, encore parfois mieux que dans l'église. Mais le Seigneur veut que nous devenions de ceux qui annoncent et qui faisons avancer le royaume de Dieu. Amen. Voilà. Je voudrais terminer par la prière et je voudrais demander aux responsables de l'Église de venir. Je voudrais prier pour eux devant vous pour qu'ils puissent rentrer dans la foi que dans cette Église, la puissance de Dieu peut se manifester pour guérir, pour sauver, pour faire avancer le royaume. Amen. Amen. Tu viens, Charles. Je ne sais pas si c'est Jérôme aussi. J'ai demandé aussi au Constant, parce qu'actuellement, on est en train de faire un trio d'intercession, parce que je crois que sans l'intercession, sans la prière, eh bien, aucune église, et en particulier celle-là, ne peut être une église. Nous pourrons être tout, mais sauf une église. Je vous demande de vous lever, si vous croyez à la prière, et je vais prier pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Moi, je me mets dedans. Voilà. Il y a Florence et... Non ? Et Michel aussi. Parce que vous savez, il y a des pasteurs et des anciens, il y a des responsabilités diverses dans cette Église. Et le Seigneur veut nous utiliser pour que nous puissions sortir de notre torpeur, de cette France laïque et qui doute de tout. Hein. Descartes nous a appris à douter. Peut-être c'est bien en science, mais pas dans ce cas-là. Là, il faut croire. Amen. Alors, si vous croyez, donnez-vous la main en guise d'association pour cette prière. Donnez-vous la main, si vous le voulez, la main à l'autre, hein. pas tout seul. Parce qu'on est une communauté, vous savez. Le problème, c'est qu'on oublie qu'on est une communauté. On pense qu'on est tout seul. Non, c'est dans une communauté que les choses se passent. Amen. Amen. Eh bien, Seigneur, je te prie pour que, à ce jour de résurrection, Seigneur, où toi tu es ressuscité d'entre les morts, où nous le fêtons, où nous le déclarons, où nous le disons, Seigneur, nous voulons le croire. Nous voulons croire que cette résurrection est aujourd'hui encore d'actualité, qu'aujourd'hui encore tu peux ressusciter des morts, et qu'aujourd'hui encore tu peux ressusciter des églises, tu peux ressusciter des ministères, tu peux ressusciter, Seigneur, toutes sortes de choses dans nos cœurs, Seigneur, pour que si nous avons baissé les bras, eh bien nous puissions, Seigneur, ce matin, dire « Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que je n'ai pas cru. Je pensais que c'était pour un autre temps. Seigneur, je te demande de nous donner la foi. La foi que c'est possible encore aujourd'hui. Et que, Seigneur, c'est comme cela que l'Évangile va se répandre. Il va, Seigneur, avancer. Parce que, Seigneur, c'est ta puissance, la puissance de ta résurrection qui va confondre les cœurs. Et, Seigneur, garde-nous de tout orgueil. Garde-nous tout orgueil, Seigneur. C'est toi qui le fais. Et Seigneur, donne-nous d'être humbles, comme toi tu l'as été devant Satan. Tu n'as pas été pris par cet orgueil de prendre l'autorité pour ces royaumes, Seigneur. Tu les as reçus du Père lorsque le moment est venu, lorsque l'agenda de Dieu est arrivé. Et tu as reçu même les clés du séjour des morts. Tu as libéré les captifs, Seigneur. Et tu donnes maintenant, Seigneur, des dons. Seigneur, dans cette église. Je te remercie pour tous les dons que tu donnes, Seigneur, les dons qui sont devant dans cette église, Seigneur, des dons de direction. Seigneur, tu donnes la foi afin que nous puissions croire dans la puissance de ta résurrection qui se manifeste aujourd'hui et maintenant dans cette église. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen.